Sébastien Pla, sénateur de l'Aude, dans cette troisième partie, on va évoquer des choses peut-être un peu plus personnelles ou votre ressenti personnel. Mais auparavant, vous aviez évoqué tout à l'heure alors, la pêche. C'est une activité de chez nous. On est quand même aussi, on a un littoral, on a des étangs. Il y a un petit problème à l'heure actuelle. Alors, c'est peut-être pas le seul, mais sur lequel vous êtes obligé de vous pencher. Deux mots là-dessus.
Ben oui, il y a un petit problème lié à la loi, une fois de plus, à des décrets de loi qui remettent en question des pratiques de pêche, notamment
sur les étangs,
ouais, sur les petits métiers. Qui sont des pratiques qui datent de il y a 200 ans en arrière et gérées par une prud'homie qui est le gestionnaire de ces espaces lagunaires.
Alors, il y a des prud'homies à Gruissant, pour la Nouvelle, c'est tout dans l'Aude.
Ouais. Hein ouais. Et donc c'est des techniques de pêche traditionnelles qui n'ont aucun impact sur la ressource du poisson. Mais des décrets à la fois européens et français qui s'appliquent partout, mais en fait qui ne tiennent pas compte des spécificités des uns et des autres, une fois de plus, c'est le problème de certaines lois qui ne rentrent pas dans le détail des spécificités des territoires, fait que les pêcheurs ont été hors la loi et se sont vus rappeler à la loi, pas verbalisés encore, mais et donc obligés
donc là, on appelle le sénateur.
D'adapter. Le sénateur propose de les accompagner parce que moi, j'estime que la première espèce en voie de disparition aujourd'hui, c'est les pêcheurs.
Plus
et
que
pas,
le poisson.
Et pas du tout les dorades ou les anguilles.
Dans ces étangs, il n'y a pas de problème.
Non, pas du tout. Je vais essayer, en relation avec la ministre de la mer, de trouver des solutions législatives de sortie de cette affaire-là, de manière à ce qu'il y ait des autorisations de maintien de ces techniques traditionnelles de pêche. Il faut que la tradition reste au-dessus de la règle. Ça prend du temps.
Mais c'est pas un facile de loi. Faire comprendre aux bureaucrates qu'il faut faire des exceptions.
C'est ça. Y compris au service des forces de l'ordre qui appliquent la loi à la lettre sans... Pas tous, heureusement, sans distinction. Il faut quand même, il y a la loi, puis il y a l'esprit, et voilà. Donc bon, on travaille avec Monsieur le sous-préfet, les élus littoraux,
pour essayer d'arrondir les angles. En fait, c'est ça qu'il faut parvenir.
Mais pour gagner du temps, pour qu'on puisse faire évoluer ce décret et obtenir une spécificité de leur pratique de pêche, parce que la ressource n'est pas du tout, et ce serait bien d'avoir même une étude d'impact du Pralmar
pour démontrer justement
qu'il n'y a pas d'incidence sur la ressource en poisson.
Et infirmer des
poisson,
préjugés, finalement.
C'est clair. Ouais. Tout à fait. Non, mais ils ne demandaient rien, c'est les pauvres pêcheurs, on vient les emmerder, quoi. Mais bon, ça, c'est comme les agriculteurs ou les viticulteurs. Parfois, ils ne demandent rien, rien qu'à faire leur travail tranquillement.
Mais il y a des textes qui sont là qui empêchent de tourner en rond. Alors, on passe à une question et un problème totalement différent. Votre prédécesseur à ce micro dans ce Radio Barque, Monsieur Sébastien Pla, c'était Gilles Bourguignon pour Narbonne Ukraine, avec lequel nous avons parlé de l'Ukraine, de ses actions pour ce pays et de la situation actuelle. À savoir, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, on semble moins s'intéresser à l'Ukraine et surtout à l'action d'aide que doivent apporter les Occidentaux, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Or, lui faisait remarquer, M. Bourguignon, parce qu'il connaît bien ce pays notamment, que s'il advenait que l'Ukraine perde la guerre contre la Russie, c'est pas seulement ce pays, l'Ukraine, qui perdrait, mais c'est probablement le combat de la démocratie et les valeurs de l'Europe et de l'Occident. Est-ce que vous, en tant qu'alors, citoyen bien sûr, mais sénateur également, vous percevez cette chose-là et est-ce que le Sénat, lui, le perçoit également en tant qu'autorité ?
Oui, le Sénat a un gros rôle diplomatique et nous sommes très inquiets de la situation en Ukraine, en particulier ces derniers temps où l'Ukraine semble perdre des positions, où le Congrès américain, quand même le plus gros financeur et apporteur de matériel en Ukraine, a du mal à se déterminer pour continuer l'aide. La difficulté, en tout cas la menace que l'on voit poindre et depuis le début, c'est qu'on a affaire à un chef d'État, Vladimir Poutine, qui Et quelqu'un qui a un grand dessin et qui voudrait reconstituer l'ex-URSS et récupérer les pays du bloc de l'Est. Donc la menace, elle est réelle. Sa volonté, il ne faut pas se le cacher, c'est d'arriver à Berlin. Ni plus, ni moins. Donc si l'Ukraine tombe aux mains des Russes demain, ou l'année prochaine, il ne s'arrêtera pas là. Il va continuer en Pologne, en Roumanie. Nous avons des informations, évidemment, via les affaires étrangères. Cette guerre, l'Ukraine ne doit pas la perdre. Sinon, les conséquences...
Ça veut dire qu'elle nous concerne aussi.
Elle nous concerne directement. Alors la France, effectivement, fait partie de l'ensemble des pays, et en tout cas des chefs de file au niveau européen, pour l'accompagnement de l'Ukraine dans ce conflit-là. Mais il faut des moyens. Et nous n'avons pas les moyens en France d'affaiblir notre puissance militaire pour accompagner l'Ukraine.
Oui,
on ne peut pas.
Il faut l'Europe et les États-Unis.
Voilà, tout seul, on ne fera pas grand-chose. On a besoin des États-Unis et de l'Europe dans son ensemble. Parce que, je vous le rappelle, nous avons le deuxième espace maritime mondial qu'il faut protéger, oui, préserver, surveiller avec nos forces armées.
Donc et d'autres chats à fouetter.
D'autres chats à fouetter. Et nous sommes en danger, notamment en Polynésie, avec l'Australie, la Chine, la Russie aussi, très présente, et qui regarde un petit peu nos ressources naturelles en Nouvelle-Calédonie et nos ressources aussi marines. Donc on doit faire face à un double problème, la France, c'est qu'avec nos moyens militaires, il faut à la fois surveiller et protéger un vaste territoire qui est le nôtre, et en même temps contribuer à la défense de l'Ukraine par rapport au grand dessein catastrophique de Vladimir Poutine, qui d'ailleurs déporte aussi une partie du conflit aujourd'hui en Israël avec le Hamas sur la bande de Gaza.
Cette
tout est lié.
Elle est bien prise. Oui.
Tout à fait.
Oui, bon, en espérant qu'elle se répande et surtout qu'elle se concrétise et qu'elle reste dans le
conflit. Ce n'est pas parce que l'on en parle moins dans les médias que le danger n'est pas présent. Il est encore plus présent qu'au début de la guerre l'année dernière.
Un autre point encore, alors le ressenti, alors, du sénateur bien sûr, mais du citoyen. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une affaire par laquelle un sénateur on a appris qu'il maniait la drogue, qu'il était consommateur de drogue, et une affaire qui a semblé presque incroyable au quidam moyen. Qu'en est-il réellement? Parce que finalement, s'il y a du trafic de drogue en France, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs.
Oui, tout à fait.
Pas seulement au Sénat.
Alors nous, on a été vraiment surpris au Sénat parce que, bon, on regarde déjà de la moyenne d'âge des sénateurs et puis de la pression qui n'est pas non plus extraordinaire par rapport à l'Assemblée nationale où il y a quelques problèmes d'alcoolisme et de drogue aussi à l'Assemblée nationale. Au regard, eux, de l'actualité, de la pression qu'ils ont, bon, chez nous, c'est quand même pas tout à fait le cas. Nous avons été surpris. Mais le personnage Guerriau... quand on regarde un peu, t'es un personnage sulfureux.
Ah bon, donc,
qui fait que quand on gratte un peu son histoire, bon, t'aperçois que c'est pas impossible que de temps en temps il enfreigne la règle. Alors je rigole, mais bon, je pense qu'il faudrait pas rigoler là-dessus. Nous devons être vraiment irréprochables et c'est vrai que cette affaire nous a mis un sacré coup, voilà, au Sénat.
Voilà, ça a dû créer un émoi quand même.
Ah, mais colossal, oui.
Voilà, enfin, il fallait quand même le rappeler parce que ça a dû également surprendre beaucoup de gens. Mais écoutez, on va conclure là-dessus. En tout cas, monsieur le sénateur, merci pour tous ces témoignages dans ce 11e Radio Barque, alors qui ne sera pas tout à fait le dernier puisque notre prochain invité sera le procureur de la République du tribunal de Narbonne, Éric Camus, avec lequel on parlera de justice, bien entendu, mais notamment du droit des victimes mineures. Merci, monsieur le sénateur. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.